Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés du média suivant, les libraires. Au programme, deux essais à ne pas manquer. Trois raisons de lire, chef-d'œuvre de Joanne Talon. Et Victor Gilbert, une Broadway mystifiée. Bonne écoute!
Deux essais à ne pas manquer. Un texte de Normand Ballargeon paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Un essai pour penser la religion, un autre pour s'instruire sur un grand nombre de sujets. Au moment où je rédige ces lignes, un vif débat divise l'opinion publique au Québec. Devrait-on ou non autoriser des salles de prière dans les écoles? Le ministre de l'Éducation, prenant appui sur la loi sur la laïcité, assure, avec de nombreux autres, qu'on ne peut absolument pas le permettre. De son côté, la table de concertation des organismes musulmans, TCOM, juge, avec d'autres, cette décision irrecevable et envisage des recours juridiques pour tenter de l'annuler. L'ouvrage que nous propose Guy Perkins, « Les chimpanzés rêvent-ils d'un paradis des bananes », retrace, sur nombre de questions relatives à la religion, à la croyance et à la laïcité, le parcours personnel d'un Québécois né en 1965 et nous invite à y réfléchir avec lui. Tout cela est d'une grande actualité et, il faut le souligner, empreint d'un humour bienvenu. Croire, ne pas croire, être laïque. Nous naissons tous athées, rappelle l'auteur. Puis la majorité des êtres humains deviennent des croyants d'une religion ou d'une autre, ou encore adhèrent à une secte ou à des croyances irrationnelles. Jouent dans ce parcours de nombreux facteurs, parmi lesquels notre besoin d'explication et nos biais cognitifs, combinés au hasard des lieux et des moments de notre naissance. Perkins, né dans une famille très religieuse, deviendra un adulte qui renonce publiquement à sa religion, autrement dit, un apostat. Ce parcours est long, sinueux, prend souvent des détours inattendus, vers le paranormal, l'occultisme, mais ce que raconte l'auteur est toujours passionnant et enrichissant. Le livre se termine sur le récit de sa participation à un rassemblement daté à Washington en 2016, un « Reason Rally ». Perkins y croise des célébrités du domaine, comme le magicien et sceptique James Randi, le vulgarisateur scientifique Bill Nye et même le monstre en spaghettis volant, le désopilant dieu du pastafarisme. Mais il constate aussi que l'athéisme est l'objet de très sévères contestations, voire de persécutions un peu partout dans le monde, y compris chez nos voisins du Sud, où se tient cette rencontre. C'est l'occasion pour lui de rappeler que le Québec, Ellipse, est un des rares endroits où l'athéisme peut s'exprimer sans trop de heurts. Mais il ajoute aussi qu'il serait maladroit de tenir pour acquises les avancées que nous avons faites. Ce qui nous conduit aux dernières pages du livre, où il est justement question de la loi 21, de la laïcité et de l'école. Ce que dit Perkins résonne fort en ce moment, notamment contre ceux qui jugent qu'elle va trop loin. Aux enseignantes et enseignants, il faut notamment rappeler, dit-il, que certaines fonctions requièrent de laisser son identité au vestiaire. Quant aux élèves, rappelons-nous que s'il y a un endroit qui doit être exempt de tout signe religieux, c'est justement l'école. Pour bien des enfants, c'est peut-être le seul moment de la journée où rien ne leur rappellera la surveillance constante de leur Dieu. Un livre à lire absolument. Une impressionnante somme de connaissances rendue accessible. il m'est impossible, en quelques paragraphes, de rendre minimalement justice à ce livre qui a pour titre « Monde », tome 3, une odyssée au cœur des grandes conceptions philosophiques et scientifiques. Mais il m'était aussi impossible de ne pas vous en recommander chaudement la lecture en tentant de vous en donner le goût. Il s'agit ici du troisième tome d'un monumental travail de vulgarisation de philosophie et de science. Ce volume, comme les précédents, compte quelques 500 pages que propose Stephen Chappados, professeur de philosophie. Voyez un peu de quoi il y est question cette fois. On parle du monde, c'est-à-dire de la Terre, de la nature et d'écologie. On traite de la liberté et de sa possibilité dans un monde régi par des lois dont la gravitation et la relativité restreintes et générales. On traite du langage, de son origine, de sa nature et de ses fonctions. Chaque fois, on convoque la philosophie et les sciences pertinentes pour réfléchir aux vastes questions abordées. L'érudition de l'auteur impressionne, au moins autant que ses talents de pédagogue et de vulgarisateur, qui font que son propos reste accessible même quand il traite de questions très complexes. De plus, ce véritable passionné par le monde des idées parvient à transmettre son enthousiasme. En préface à son livre, Jean Grondin, qui fut son professeur, écrit « À ses lecteurs, je dirais seulement qu'ils ont beaucoup de chance de le lire. » Il a bien raison. Vous apprendrez des tas de choses en lisant ce troisième tome de Monde, véritable condensé de culture générale, et je fais le pari que vous ne résisterez pas à l'envie de vous procurer les deux premiers. C'était « Deux essais à ne pas manquer », un texte de Normand Baillargeon paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Trois raisons de lire, chef-d'œuvre de Juan Tayon, un texte de José-Anne Paradis paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. L'art de la légende ou la légende de l'art. C'est l'histoire invraisemblable de la disparition d'une œuvre d'art. Invraisemblable car l'objet fait d'acier est immense et pèse 38 tonnes. Lorsque le musée de Madrid, qui l'avait sous sa supervision, réalise un jour que personne ne sait où l'œuvre se trouve, c'est la catastrophe que la direction tait des années durant, jusqu'à ce que la presse s'en mêle en 2006. Le plus incroyable dans tout cela, c'est une histoire vraie, arrivée à une œuvre de Richard Serra, sculpteur américain majeur du XXe siècle. Un mystère qui, encore à ce jour, est irrésolu, mais auquel le roman de Juan Tayon offre de fabuleuses pistes. 1. Pour l'étonnante polyphonie. Afin que le mystère demeure entier sur ce qui advient de l'œuvre et que, narrativement parlant, cette histoire véridique continue de maintenir le lecteur en haleine, l'auteur a choisi de donner la voix aux multiples sources qu'il a consultées durant ses nombreuses années de recherche. Ainsi, ce sont 73 voix qui racontent, en quelques paragraphes à peine ou quelques pages, leur implication, de près ou de loin, dans cette histoire. On lit donc la version de l'agent de sécurité, du chauffeur de taxi, de plusieurs fonctionnaires, de l'inspectrice à la brigade du patrimoine, d'artistes célèbres, de la juge d'instruction, de critiques d'art, de journalistes, etc. Il y a même la voix de l'auteur qui évoque ses difficultés à mettre la main sur les dossiers judiciaires entourant cette disparition. Ce qu'on y lit est tantôt fictif, tantôt tout droit sorti des dépositions de ceux qui ont vu l'œuvre, l'ont transportée, commandée, exposée, entreposée, etc. 73 voix unies, portées par une écriture qui leur sied chaque fois parfaitement et dont chacune offre un petit bout de la réponse grâce à un éclairage bien précis. 2. Pour découvrir de l'intérieur le monde de l'art contemporain. Quand on visite un musée, on ne pense pas nécessairement à tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour que l'œuvre qu'on dévore des yeux se retrouve devant nous, au troisième étage d'une grande salle. À la lecture du livre de Juan Tayon, on en apprend sur les dessous des compagnies se spécialisant dans le transport d'œuvres d'art. On apprend qu'un matériau pour construire une œuvre aux États-Unis peut être acheté en Allemagne. On apprend qu'il suffit parfois d'avoir les bonnes relations au bon moment. Et on en apprend aussi sur les coulisses politiques liées au fameux 5% aux États-Unis du budget qui doit être accordé à une œuvre d'art pour chaque bâtiment gouvernemental. Chef-d'œuvre nous montre qu'au-delà de l'inspiration de l'artiste, il y a beaucoup de sueur de manutentionnaire, de contrats signés, d'attente, de déplacement, de demande de permis. Bref, que le milieu de l'art est porté par des éléments bien prosaïques. Et cette plongée derrière les murs est fascinante. 3. Pour l'aspect thriller du roman. Étonnant. L'histoire est servie en s'éloignant de toute chronologie, nous entraînant parfois au moment de la création de l'œuvre disparue, parfois lors de l'inauguration d'un musée à Madrid dont l'odeur de la peinture fraîche dérange les narines des visiteurs, parfois lors des études de l'artiste, parfois bien après que la disparition a eu lieu, parfois lors de sa commande en 1986. La seule logique qui semble être maintenue dans l'ordre de présentation de toutes ces voix qui s'alternent est celle de maintenir le lecteur au bout de sa chaise. Une piste est ici semée par un indice qu'on croit déceler, alors qu'elle est ensuite réfutée plus loin par le témoignage d'un tel, qui lui nous ramène à une autre idée, ce qui, de fil en aiguille, duplique les questionnements et, surtout, le goût de découvrir comment l'auteur terminera ce fabuleux roman. C'était « Trois raisons de lire, chef-d'œuvre de Juan Tayon », un texte de José-Anne Paradis paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Victor Gilbert, une Broadway mystifiée. Un texte de José-Anne Paradis paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Victor Gilbert, auteur de polars et dramaturge, prouve qu'intrigues policières et théâtre peuvent faire bon ménage non seulement sous sa plume, mais également dans Brouillard, son plus récent roman. Grâce à Bollorène, son personnage d'ex-flic reconverti en zytologue, spécialiste de la bière, recruté par les services secrets français pour enquêter sur un assassinat survenu dans un théâtre de Broadway, il nous entraîne dans un New York des plus brumeux, loin de sa flamboyance habituelle, où tout gagne à être éclairci. À commencer par sa réelle implication dans cette affaire où le jeu d'acteur déborde des planches. La mission d'Hugo Bollorène devait durer 48 heures et se résumer à retrouver un objet caché dans la réserve d'accessoires du Edmund Theatre. Mais voilà, pour en faire un roman, les choses doivent se compliquer, les pistes se corser, les faux-semblants se dévoiler. Cette réserve, dont les étagères mesurent 6 mètres de haut, porte le nom de montagne sacrée. Animaux empaillés, poignées de porte, jouets anciens, horloges, téléphones et magazines appartenant à toutes les époques, valises et vaisselles. Un véritable labyrinthe d'objets hétéroclites cohabitant en toute anarchie où s'accumulent les accessoires selon une vieille superstition dictant que chaque pièce jouée au Edmund Theatre doit y laisser un morceau de son décor. L'homme qui a été assassiné, un espion français qui avait un goût délicat pour les chaussettes de luxe, oui, le roman est truffé de ce genre de détails qui en égaient la lecture, l'a été sur le tapis persan de ce lieu déjà théâtral en soi, devant Félix, le gardien de la montagne sacrée, atteint du syndrome de Down. Pourquoi l'espion s'était-il rendu à cet endroit? Qu'a-t-il caché dans les méandres labyrinthiques et poussiéreux? Était-il un agent double? Pourquoi a-t-il été tué? Quelle est l'implication de la CIA? Voilà ce sur quoi Bolloren, dont le patronyme a par ailleurs été mystérieusement rédigé sur un bout de papier avant que ne meure l'espion, doit faire la lumière. Mythes et origines. Pour entreprendre l'écriture, apprend-on de sa part, Victor Guilbert a besoin d'avoir une image forte en tête. Pour Brouillard, ce fut celle d'une personne avec la trisomie, peut-être inspirée de son cousin d'ailleurs, protégeant une montagne d'accessoires. Avec sa canne, sa moustache, sa coiffure et son veston, Félix a tout du dandy d'un autre temps. Ce style affirmé, ellipse, lui donne une classe certaine, dit-on à son égard. En a résulté cette montagne sacrée, donc, gouvernée par cet accessoiriste qui prend ses pauses en compagnie du vendeur de hot-dog. Mais pour ce qui est de l'intrigue en tant que telle, l'écrivain s'est tourné vers sa mémoire. Alors qu'il a environ 16 ans, Victor Guilbert lit un fait divers. Une anecdote fascinante relatée par le dramaturge Sacha Guitry, qui lit Monet à une certaine pièce de théâtre. Ce petit morceau d'histoire, dont on taira bien entendu la teneur pour ne pas ternir le plaisir de celui qui plongera dans l'œuvre, lui était depuis resté en tête, et c'est dans Brouillard qu'il a finalement servi de terreau pour l'élaboration d'une intrigue. J'avais très envie d'écrire un roman sur ce qui se passe dans un théâtre. On dit d'ailleurs que c'est toujours mieux d'écrire sur ce que l'on connaît. Mais, paradoxalement, ça a été ce roman qui a été le plus dur à écrire, nous dit-il. La pression, puisqu'il connaissait le milieu et n'avait surtout pas envie d'en dire des bêtises, était décuplée, nous avoue-t-il en souriant. En découle de charmants passages qui témoignent bien que l'auteur a maintes fois parcouru ces lieux. Le théâtre vide est encore imprégné des parfums de la foule fraîchement partie. Un mélange de fragrances haut de gamme et de transpiration universelle. Ces résidus de présence dans ce lieu déserté créent une sensation lugubre, l'impression que le théâtre est hanté. Oh, et oui, il y a un peu de Gaston Leroux et de son fantôme de l'opéra sous sa plume et dans l'Edmund Theatre. L'originalité de Brouillard réside dans cette façon de brouiller les pistes, mais aussi de flouter les lieux qui ont été mille fois mis en mots ou en scène par d'autres artistes et qui en ont façonné l'idée qu'on s'en fait. Couper la verticalité de New York, c'est ça qui m'intéressait, explique l'auteur, avant d'ajouter qu'il n'a cependant pas eu la sensation d'écrire réellement sur New York, entre autres parce que cette ville de flamboyance est totalement métamorphosée sous la brume épaisse qui la recouvre, ce qui multiplie les contraintes pour Bolloren, renforce l'idée de huis clos et ajoute à l'atmosphère inquiétante. C'est désagréable, cette impression que le monde extérieur vous engloutit, la possibilité de l'évasion, c'est ce qui rend l'enfermement citadin supportable, lit-on dans le roman. D'ailleurs, l'une des scènes très fortes du livre se passe à ras le sol, les personnages étendus sur le gazon humide, ne voyant même pas à un mètre devant eux, se transmettant de potentiels secrets d'État sous le couvert du brouillard. On est loin des descriptions de la magnificence de l'Empire State Building. Inspiré par le théâtre St. James, celui qu'on voit dans l'épatant film Birdman, pour créer son Edmund Theatre, Guilbert a choisi de déposer son petit établissement culturel qui ne paie pas de mine aux limites de la désuétude, mais dont l'aura, même si elle se délite tranquillement, est bercée par le charme des superstitions, en plein Broadway. Un théâtre centenaire, enclave française au cœur de la Grosse Pomme, qui surfe sur une rumeur datant des années 1960. Les rumeurs, quand elles plaisent, elles enflent. Où plane une présence fantomatique, où les employés colorés sont tous français, où une bière illégale est brassée dans le sous-sol comme si la prohibition était toujours d'actualité, et où les prudères, contraction de première et dernière, font sa renommée. Certaines personnes se sont persuadées que le Edmund Theatre était doté d'une aura particulière. Il porterait chance à tout spectacle y jouant sa première, lui garantissant succès et longévité. C'est idiot, mais c'est indéboulonnable. Il y a des troupes qui paient des fortunes pour venir jouer ici, un seul soir, simplement pour avoir le bon œil qui plane au-dessus de leur production. Sans personnage, pas de roman, disait Burgess. Dans cet étrange théâtre évolue une faune étonnante, des individus comme seule la fiction peut en inventer. J'aime les personnages forts et bien marqués, nous explique Gilbert, qui a créé notamment un éclairagiste aveugle. Clin d'œil à un personnage, favori du public, d'une de ses pièces mettant en scène un coiffeur aveugle coiffant un chauve. Un perroquet qui abuse des Irish Coffee et qui ne se soucie guère de la force en café ou en alcool de la boisson. C'est le charme de ce cocktail sans horaire, les abus du matin qui se mêlent à ceux du soir. Un directeur désinhibé qui fait l'amour tout en immobilisme et une régisseuse aux airs de Mary Poppins. Et il y a Bolloren, nouvellement zytologue et engagé sous la couverture d'être le nouveau barman afin d'explorer les dessous de ce lieu. Bolloren, amoureux et attendri par cette Mathilde qui l'accompagne. Bolloren, un ex-flic incapable de mentir et qui, pour s'empêcher de fumer, se rabat sur du chocolat. Bolloren, qui a la particularité d'avoir une bille en tête. Bille qui, loin de l'envoyer directement au but comme le voudrait l'expression, s'avère plutôt un processus mental qu'il subit sans pouvoir le contrôler. Lorsqu'une énigme se pose à lui, une bille roule dans son esprit, s'anime lorsque des indices surgissent devant lui et fait bing lorsque le mystère est résolu. « J'aime la visualisation de l'inconscient », explique l'auteur, qui glisse effectivement ici et là des mentions à cette bille afin d'accompagner le lecteur dans la découverte potentielle d'indices, d'accompagner Bolloren, qui entretient une relation douce-amère avec la dite bille, dans ses démarches. Un passé livresque. Victor Gilbert est né en France et a grandi entouré de livres. Chez lui, il y en avait toujours. Sa mère, notamment traductrice de Ken Follett, l'amenait souvent dans les salons littéraires. Avant de poser ses pénates à New York, à quelques pas de l'étincelant quartier des théâtres, il a demeuré en Chine, où il a dirigé une troupe de théâtre francophone à Shanghai de 2009 à 2014. Une expérience qui lui a inspiré son premier roman, L'histoire fabuleuse du français insouciant devenu chinois insurgé, Icari, 2018, qui met en scène un dramaturge attachant, débonnaire et volontaire, qui rappelle par endroits le Meursault de Camus en plus joyeux. L'écriture de Gilbert a un petit quelque chose de caustique surprenant de Martin Page, et l'auteur maîtrise cet art particulier de la chute, non pas finale mais régulière dans ses phrases, ce qui pousse à l'éclat de rire. D'abord dramaturge, donc, ses pièces, principalement des comédies, flirtent avec l'absurde, nous dit-il. Gilbert s'est tourné vers le polar lors de l'écriture de Douve, premier volet mettant en scène l'inspecteur Bolloren, au moment où il s'est rendu compte qu'il ne pourrait faire de cette histoire une pièce de théâtre. En raison du grand nombre de personnages, mais aussi parce que les « cozy mysteries » n'ont pas tout à fait la cote en France. Et il a passé le pas avec succès, car autant Douve que Terra Nullius furent récompensés de prix. Écrire un polar, c'est quelque chose de facile, car c'est tellement codifié que c'est presque plus facile que de se lancer dans la littérature blanche. Certaines similitudes dans l'écriture entre le polar et le théâtre demeurent. Il faut faire attention au rythme dans les deux cas, s'assurer de bien doser pour maintenir l'attention, nous confie l'auteur qui, pour s'assurer de la bonne fluidité de ses mots, lit en plus tout à voix haute. Outre l'intrigue qui joue avec les codes du roman d'espionnage et du polar, les lecteurs pourront s'amuser à dénicher autre chose. Des clins d'œil, dont un à la mouette de Tchekhov, un à l'insipide de l'étranger et un autre à Boris Vian avec l'Alzheimer sept de Vigne et bien d'autres que l'auteur a saupoudrés ici et là. Il a également emprunté sa description du vendeur de hot-dog à la conjuration des imbéciles. Ça, c'est lui qui nous l'a dit, on doit l'avouer, et a parsemé son texte de courts extraits de poèmes. Victor Guilbert est visiblement un esthète de la prose qui semble aimer, en plus des mystères, jouer à cache-cache. C'était Victor Guilbert, une Broadway mystifiée. Un texte de José-Anne Paradis paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canalem à l'adresse canalem.vizevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à André Lebeau à la lecture et à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.